Radio Okapi.
Le journal avec Pascal Massirika.
À la une de l'actualité, 28 morts, 189 rescapés et une centaine de disparus. Bilan provisoire du naufrage de la baleinière HB Mapamboli à Mbandaka dans l'Équateur. Le vice-gouverneur menace de sanctionner les auteurs de ces drames. Affrontement ce dimanche au Nord Kivu entre un groupe armé locaux et les rebelles du M23 à Tongo et à Bichoucha dans les territoires de Rutshuru. À Masisi, par contre, le calme précaire est signalé dans la région de Kichanga. Notre invité, c'est le coordonnateur du programme de la santé oculaire et de la vision au Maniema. Docteur Charles Omesumbu Chako appelle les habitants de cette province à s'occuper scrupuleusement de la santé de leurs yeux. Madame, messieurs, bonsoir. 28 morts, 189 rescapés et une centaine de disparus. Bilan provisoire dressé ce dimanche par les autorités locales après le naufrage de la baleinière HB Mapamboli à Mbandaka dans l'Équateur. Des sources indépendantes parlent de 40 morts. Le vice-gouverneur de la province menace d'infliger des sanctions aux auteurs de ces drames. Pour en parler, Paul-Richard Malengela nous appelle de Mbandaka.
Ce dimanche, le port Bankita, où s'est produit le drame vendredi soir, a été à nouveau envahi par plusieurs familles éplorées. La baleinière Mapamboli ayant été en grande partie tirée des eaux, certains ont espéré par cette manœuvre voir surgir des corps qui étaient enfouis dans l'eau. Mais à peine une dizaine seulement ont flotté ça et là, ont indiqué des témoins et ceux qui les ont récupérés. Le vice-gouverneur de l'Équateur s'est rendu sur les lieux. Taylor Nganzi a annoncé quelques dispositions prises par son gouvernement, lequel a mobilisé des pirogues motorisées en vue de poursuivre les recherches en aval de la ville. Il a également remis quelques cercueils et sacs mortuaires aux agents des actions humanitaires, appuyés par la Croix-Rouge, pour l'enterrement digne des victimes. Mais faute de garder longtemps les corps à la morgue, l'autorité provinciale a décidé leur inhumation dimanche après-midi. Entre-temps, l'identification des rescapés et des familles des victimes va se poursuivre, a dit le gouverneur intérimaire, afin de restituer quelques-uns des biens récupérés de la baleinière à leurs propriétaires. Toutefois, l'exécutif provincial de l'Équateur a sollicité l'appui du gouvernement central en vue d'une assistance matérielle et financière aux rescapés qui ont tout perdu, mais aussi pour leur rapatriement à Bolomba, leur provenance, y compris l'accompagnement psychologique des enfants accidentés et qui ont perdu aussi leurs parents dans cet accident. Mbandaka, Paul Chamalingela, Radio Okapi.
Dans l'actualité, il y a également ces affrontements signalés ce dimanche entre des groupes armés locaux et le rebelle du M23 à Tongo et à Bichoucha, chefferie de Bouito dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Dans le territoire voisin de Masisi, par contre, un calme précaire est signalé dans la cité de Kichanga. Le point de la situation avec vous, Alain Rungmouchinge.
Nos sources dans la région renseignent que des affrontements se déroulent notamment à Rushovu, Kionga, Rushege et Kisangani dans la partie Tongo, mais aussi autour de Bouiza, notamment à San City, Tanzanie et Kaveni, à environ 7 km de Bouiza. D'après nos sources, la coalition des groupes armés locaux tente de bloquer le passage au renfort du M23 sur l'axe Tongo, tentant d'occuper également Bouiza, l'un des grands bastions des rebelles du M23. Quelques civils auraient été blessés, notamment un habitant de Rushovu, affirme nos sources. Des détonations de bombes ont également été entendues dans cette partie. Par ailleurs, dans le Masisi, quelques accrochages ont également été signalés pendant la nuit à trois endroits différents autour de Kichanga, notamment à Burungu.
En Ituri, pendant ces temps, des habitants de plusieurs localités, des chefferies de Basili et Walese Vonkutu au sud du territoire du Rumu, n'ont pas accès à leurs champs. C'est suite à l'activisme des rebelles ougandais de l'ADF et des groupes armés locaux. Conséquence, la crise alimentaire dans la zone où beaucoup de familles vivent dans des conditions extrêmement difficiles. La société civile locale demande au FRDC et au casque bleu de la MONUSCO de démanteler au plus vite ces inciviques. À Bounia, le récit d'Isaac Remoyopé.
De nombreux habitants de l'axe Komandaluna ont abandonné leur village et sont concentrés dans certaines entités où sont installées les forces conjointes FRDC armée ougandaise et les casques bleus de la MONUSCO. C'est le même décor sur les tronçons Komanda Mambasa où il y a concentration de la population dans certaines agglomérations, notamment Mungamba, Pont Ituri. Cependant, ces personnes vivent dans des conditions difficiles à cause des difficultés d'accès à leurs champs, à cause de la présence des rebelles des ADF et d'autres milices locales, précise la société civile d'Irumu. Son président rapporte que la population population travaillent dans un rayon de 5 km pour éviter de tomber dans l'embuscade de ces hommes armés. Guili Gotabo demande des FARDC armées ougandaises de traquer ces hommes armés dans la forêt pour permettre aux habitants d'évacuer librement leurs activités agricoles.
Jusqu'à présent, il y a encore le rebelle ADEF qui est en train de contrôler la zone dans la forêt, raison pour laquelle la population a peur d'aller dans la forêt pour chercher ses articles vivrières. Nous demandons au gouvernement de venir en aide à ces paisibles populations. Il n'y a pas de vivres pour eux et ils sont en train de vivre dans une condition là très difficile.
De leur côté, les casques bleus de la MONUSCO installés notamment à Komanda ont résolu de renforcer les patrouilles dans cette zone en vue d'écarter les menaces des groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis au Loma, les habitants des localités d'Obola et de Mufumba dans la chefferie de Kakisungu ont enfin enterré la hache de guerre grâce aux bons offices de l'administrateur du territoire de Lwilou. Pomme des discours de depuis plusieurs années, un conflit foncier. Un rapport d'enquête mené par la commission territoriale a même été rendu public vendredi dernier. Pour en parler, retrouvons un Mboujimaï, Esther Ndalafina.
Le rapport d'enquête effectué par la commission territoriale donne les détails sur la qualité des personnes désignées pour représenter les habitants de ces deux localités en conflit ainsi que celles des experts du territoire. Ce rapport indique également la méthodologie utilisée et les endroits investigués pour déterminer les limites sources des conflits entre les deux localités. D'après l'administrateur de territoire de Lwilou, les parties en conflit se disputent deux savanes, dont celle de la mission protégée dénommée Kasha. En conclusion, les enquêteurs ont trouvé que la localité de Ibola a existé avant celle de Kafumba. La commission a identifié les limites qui séparent les deux localités en conflit. Ces limites ont été intentionnellement modifiées par une des parties. Une copie des résolutions prises par les enquêteurs a été envoyée aux représentants de ces deux parties. L'administrateur de territoire qui a initié cette enquête se dit satisfait d'avoir rendu possible la cohabitation entre les habitants de ces deux localités. Il a prodigué des sages conseils pour une paix durable. Esther Ndalafina, Mboujimaï, Radio Kapi.
On enchaîne avec le Sud Kivu. La commission diocésaine Justice Paix de l'archidiocèse de Bukavu dénonce actuellement la montée des cas de vindicte populaire dans la province. Une dizaine de femmes accusées de sorcellerie ont été brûlées vives pour le seul mois de septembre face à cette pratique répréhensible. Cette commission met le service de sécurité, la justice et le pouvoir coutumier devant leurs responsabilités. À Bukavu, la correspondante d'Emmanuel Elmejouakabedi.
La dénonciation de la CDJP est faite dans un flash spécial du mois d'octobre 2023. Elle parle des pratiques répréhensibles par la loi et étranges à notre culture. Pour le seul mois de septembre 2023, 8 femmes accusées de sorcières ont été brûlées vives par les membres de la communauté dans les territoires de Walungu, Kalehe et Fizi. Le cas le plus récent remonte au 6 octobre 2023 à Chiherano, en territoire de Walungu. Une femme, 70 ans révolue, mère de 6 enfants, a été violemment et bestialement tuée par vindicte populaire. Ses bourreaux, bien identifiés, sont pourtant les personnes qui partagent avec elle le même village, la même famille et la même religion. La CDJP regrette que ces cruautés ne viennent pas de groupes ou bandits armés, mais plutôt de civils, dont de chrétiens. Cette structure de l'archidiocèse de Bukavu interpelle ainsi les procureurs et les juges, la police et l'armée, les services de renseignement et les pouvoirs coutumiers, eux qui sont censés intervenir pour interdire et restaurer la paix. Emmanuel Elamijouakabedi, Bukavu Radio Kapi.
Arrivé ce dimanche après-midi à Mboujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental du ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu vient lancer la saison culturelle A. C'est pour cela qu'il apporte 20 tonnes d'intrants constitués de semences, des engrais chimiques et des outils aratoires destinés aux agriculteurs. Il s'est confié à Esther Ndalafina.
On est venu avec un matériel agricole, les semences améliorées et même les matériels aratoires pour donner, pas aux politiciens, j'insiste, c'est pour donner aux paysans. Je rappelle que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudrait que cette fois-ci, qu'il y ait la revanche du sorcier de sous-sol. C'est le slogan qu'il annonce, vous le savez tous. Mais il voudrait aussi qu'il y ait le prélat de l'agriculture sur les mines. Mais comment il faut le faire? Mais c'est dans une vision de l'agenda de transformation agricole que nous allons implémenter, qu'on est en train de faire. Et au sein du gouvernement Samalokonde, je suis le porteur de ces messages-là pour pouvoir amenés à faire les arrangements sur ce sol. Alors nous sommes venus non seulement avec un matériel agricole, comme je l'ai dit, mais on va pouvoir faire des réunions pour trouver des solutions. Je sais qu'il y a un problème de pénurie de maïs, il y a les prix qui sont montés sur les marchés. Nous trouvons la solution sur les plans conjoncturels, c'est-à-dire immédiatement. Il y a des solutions que le gouvernement, sous mon égide, va pouvoir proposer à Madame la gouverneure intérimaire. Mais il y a des solutions aussi structurelles pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Nous allons pouvoir nous réunir avec tout ce qui détient les producteurs locaux, qui détiennent les fermes, les plantations, pour que le gouvernement puisse donner la subvention.
Autre nouvelle en plus bref ce soir. En mission ici à Kinshasa, une délégation de la SADC a rencontré hier samedi après-midi les délégués du Front commun pour le Congo, plateforme politique de Joseph Kabila Kabange au sujet du processus électoral en RDC. Selon Madame Marie-Ange Mouchobekwa, le FCC a réitéré ses préoccupations sur leur représentation au sein de la CENI, une cour constitutionnelle équilibrée et véritablement indépendante, une loi électorale consensuel et qui garantit plus de transparence, la sécurité physique des opposants, le rétablissement de la sécurité dans l'est de la RDC et dans la province du Maïndombe. L'évêque Dodo Kamba a été démis de ses fonctions de représentant légal de l'Église du Réveil au Congo lors de l'Assemblée générale tenue ce samedi à Kinshasa. Dodo Kamba est accusé de mauvaise gestion financière et de détournement des ressources confessionnelles, fraude, clientélisme, démagogie, égoïsme et d'exclusion comme mode de gestion. Sensibiliser les usagers de la route et ceux qui régulent quotidiennement la circulation et à s'occuper de personnes en déficience visuelle. Appel lancé ce dimanche à Kinshasa par l'ONG Cri de Bartimée à l'occasion de la journée de la canne blanche. Son coordonnateur interpelle le gouvernement congolais sur les besoins de ces personnes en matière de formation, de financement et d'intégration pour leur autonomisation. Jacques Sambeya, lui-même personne en déficience visuelle, l'a dit à Babel Mpongo Masimango.
La canne blanche, c'est une canne qui identifie une personne en déficience visuelle. Malheureusement, chez nous, cela n'est pas connu ainsi. Il y a des motards, des chauffeurs qui ne comprennent rien. C'est pourquoi il est impérié pour nous qu'il y ait des journées comme telles que celui-ci, nous puissions alarmer tout le monde pour qu'il soit sur les gardes. Il y a aussi la police de circulation routière, la commission nationale de prévention routière. Nous devons aussi les alarmer, qu'une fois qu'ils voient cette catégorie de personnes avec la canne, qu'ils arrêtent tout pour leur donner la priorité de passer aisément, car il s'agit là d'une vie humaine. Nous sommes connus au Congo comme des mendiants. Or, parmi nous, il y a des gens qui ont des capacités, des potentialités à exprimer. Il y a des dames qui savent faire les yaourts, le mikate, comme ça se dit chez nous, des petites et moyennes entreprises pour sortir des loisivetés. Mais nous sommes buteux à un problème de finances. Qui va vous financer? Qui va vous donner confiance? L'État devrait créer un fonds national de déplacement des handicapés et des invalides. Ça va nous permettre de quitter cette condition de précarité que nous avons aujourd'hui.
Actualité internationale.
L'offensive terrestre que l'armée israélienne semble préparer contre la bande de Gaza pourrait mener à un génocide, ont prévenu ce dimanche après-midi les dirigeants de la Ligue arabe et de la Commission de l'Union africaine au Caire. Ahmed Aboulgeit et Moussa Faki appellent par conséquent les Nations unies et la communauté internationale à arrêter une catastrophe. Notez que c'est depuis le 7 octobre que l'attaque surprise du Hamas contre Israël et les bombardements de l'armée israélienne sur Gaza ont fait des milliers de morts et 1 million de déplacés. Et puis les dirigeants de 27 pays de l'Union européenne ont souligné le droit d'Israël à se défendre conformément au droit humanitaire et international face aux attaques violentes et indiscriminées du Hamas dans un communiqué commun publié ce dimanche après-midi. Ces dirigeants plaident par conséquent pour une aide humanitaire d'urgence et se disent prêts à soutenir les civils qui en ont besoin à Gaza. Ils insistent sur le fait que cette aide d'urgence humanitaire ne soit pas détournée par des organisations terroristes.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur du programme de la santé oculaire et de la vision au Maniema. Dr Charles Omesumbu Chako appelle les habitants de cette province à s'occuper scrupuleusement de la santé de leurs yeux. Il s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Docteur Charles Messumbo, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Docteur, chaque deuxième jeudi du mois d'octobre, on célèbre la journée de la vie. Vous, vous conseillez la population à aimer ses yeux. Ça veut dire quoi?
Merci beaucoup, madame la journaliste. Effectivement, et cette année, le deuxième jeudi du mois d'octobre tombe le 12. Le thème principal au niveau mondial, c'est « aimer vos yeux ». Donc, nous conseillons principalement cette année aux travailleurs de consulter au moins une fois l'an un ophtalmologiste. Parce que, comme vous le savez, les travailleurs, la plupart avoisinent les 40 ans, la plupart, ou dépassent les 40 ans. Et au-delà des 40 ans, il y a des maladies qui commencent à survenir, pour lesquelles il est important de poser le diagnostic à temps et que nous puissions envisager une prise en charge cohérente. Et parmi ces maladies, celle qui survient le plus, c'est les erreurs de réfraction. La plupart utilisent leurs yeux pour lire des paperasses, pour lire dans l'ordinateur, etc. C'est ça leur travail de tous les jours. Pour lire la Bible, tout ça. Et toutes ces personnes-là, s'ils ne savent plus lire, c'est un problème. Ils doivent consulter, comme ça ils ont des conseils adéquats.
Docteur, pourquoi seulement choisir les travailleurs? C'est que ceux qui ne travaillent pas n'ont pas droit de soigner leurs yeux?
Mais au fond, qui est travailleur? Même cette ménagère qui est à la maison est aussi travailleuse. Vous savez qu'elle peut enfiler l'aiguille, mais si elle ne voit plus bien, elle ne saura plus enfiler l'aiguille, elle ne saura plus coudre, elle ne saura plus trier le riz du paddy. Donc, tout le monde est travailleur. Donc, à part les travailleurs qui sont dans les bureaux, il y en a même les maraîchères, il y en a même tous ceux-là qui peuvent vendre, mais ils doivent bien compter leur argent. S'ils ne voient plus bien, comment ils vont compter leur argent? Comment ils peuvent émettre des factures? Même des commerçantes, ce sont des travailleuses. Donc, quand nous disons travailleurs, c'est toute personne qui est en activité.
Chaque année, docteur, vous êtes spécialiste et au maniement, vous êtes en train de traiter ces cas. Comment est la situation?
Merci beaucoup, madame la journaliste. Si nous pouvons regarder les pathologies émergentes ou prédominantes dans notre province, nous dirons que la première cause de consultation chez nous, ce sont les erreurs de réfraction. Les erreurs de réfraction, ce sont ces maladies qui se corrigent en portant des lunettes. Il y en a qui ne savent plus lire, il y en a qui ne savent pas voir au loin, mais qui nécessitent uniquement des lunettes pour voir. Mais la première cause de cécité, celle qui rend aveugle les gens, c'est la cataracte. Et la cataracte est heureusement réversible. Quelqu'un peut être déjà aveugle, mais si nous l'opérons, on peut recouvrer la vue. Mais malheureusement, à côté de la cataracte, il y a une troisième maladie qui est là et qui nous vient le plus souvent dans le sud du Maniema, c'est le glaucome. Le glaucome donne malheureusement une cécité irréversible. Et il est important de poser le diagnostic pendant que la personne peut encore voir. Et de cette manière, on peut sauvegarder la vision existante, soit médicalement avec des médicaments, soit chirurgicalement au cours d'une intervention chirurgicale. Voilà, le reste, ce sont des conjonctivites qui viennent ça et là, saisonnières, surtout pendant la saison sèche, etc. Et voilà.
On doit consulter une fois l'an ses yeux, mais docteur, il y a ceux-là qui disent que c'est trop cher. Ici, au Maniement, qu'est-ce que vous avez prévu à marge de cette journée?
Merci beaucoup, c'est vrai. Mais par rapport au degré d'amour qu'ils ont pour leurs yeux, il n'y a rien qui pourra être trop cher. Essayez simplement de fermer vos yeux. Qu'est-ce que vous voyez? C'est le noir, n'est-ce pas? Et si ce noir doit perdurer toute la vie, je ne sais pas, peut-être que vous donneriez n'importe quoi pour récupérer votre vision, si les gens pouvaient comprendre ça. Mais nous savons aussi que malgré tout ça, il y a des gens qui ne peuvent pas nous voir ou qui disent qu'ils ne peuvent pas nous voir faute de moyens. Alors, nous n'avons pas reçu de quiconque un certain droit. On n'a pas reçu non plus de soutien. Mais chaque année, nous donnons de notre expertise. C'est notre façon de partager nos connaissances avec la population du Maniema. Nous allons consulter. Nous allons utiliser nos appareils pour consulter gratuitement pendant 2 jours. Donc, le lundi 16 et le mardi 17 octobre, nous allons faire les journées portes ouvertes au centre de soins oculaires 5e Selpa, Kindu. C'est là que le programme national de la santé oculaire et de la vision au Maniema a choisi de consulter les malades cette année.
Docteur Charles Messumbo, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur du programme de la santé oculaire et de la vision au Maniema. Docteur Charles Omesumbu Chako a été interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté à Kinshasa. Il est 18h20 à Kinshasa. Infiniment merci à Alain Rungmouchich qui a participé à la conception et à la supervision de ce journal.